Vous écoutez Radio France Internationale, il est 20h30 à Paris, 19h30 en temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
7 ans, c'est le temps qu'avait duré la mise en pause du procès des assassins présumés d'Urbain Daniveau au Bénin. Ce syndicaliste et opposant avait été tué en 2010. Les accusés sont de retour devant la justice depuis aujourd'hui à Cotonou. Ils nient toute implication, mais disent en revanche avoir été utilisés à leur insu. Félix Tshisekedi était à Luanda. Aujourd'hui, le président congolais a rencontré son homologue João Lourenço, médiateur du conflit dans l'est de la RDC. L'Assemblée nationale du Sénégal signe une loi pour permettre au président de signer la convention entre le Sénégal et le Maroc pour que les deux pays puissent porter assistance aux détenus emprisonnés de part et d'autre. Et puis, quel bilan de la présidence Patrice Motsepe après 4 ans à la tête de la CAF, seul candidat en lice. Le Sud-Africain sera réélu demain au Caire comme numéro 1 de la Confédération africaine de foot. Ils sont de retour face aux magistrats pour la première fois, 7 ans après le début de leur procès. Les assassins présumés du syndicaliste et opposant Urbain Daniveau, décédé en 2010 au Bénin, ont de nouveau été présentés au tribunal de première instance de Cotonou aujourd'hui. La première journée d'audience a été consacrée essentiellement à la déposition des deux présumés coupables qui sont en détention depuis 15 ans. Les accusés ont catégoriquement nié les faits et toute implication et ont raconté qu'ils avaient été utilisés, Jean-Luc Aplogan.
La déposition la plus attendue était celle du féticheur Kodjo Alofa. C'est près de son domicile, un mois après la disparition du syndicaliste, que la police a exhumé la dépouille d'un homme présenté comme celle de Urbain Daniveau. Des images du féticheur à genoux près du corps découvert, avouant le crime, avait circulé à l'époque. Devant la cour aujourd'hui, il a déclaré n'avoir jamais tué Urbain Daniveau. J'avais fait cet aveu parce qu'on m'a demandé de le faire contre promesse. Il poursuit, c'est en prison où j'étais détenu pour vol de moto qu'on m'a proposé ce rôle contre la promesse d'une forte somme d'argent et d'une libération 4 mois après. En répondant aux questions, son accusé, lui, cite des noms de personnalités importantes de l'époque. Tous deux affirme avoir été traité par ces derniers avec attention et délicatesse en prison. En dehors des visites et des cadeaux, le féticheur avait même droit à des virées nocturnes arrosées. La famille Daniveau était présente dans la salle. Elle attend avec beaucoup d'intérêt la déposition des témoins et surtout les confrontations. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Des négociations directes dans les prochains jours entre la RDC et le M23. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la présidence angolaise à l'issue d'une rencontre à Luanda entre le dirigeant du pays, João Lourenço, et son homologue congolais, Félix Tshisekedi. João Lourenço, médiateur du conflit dans l'est de la RDC, zone où le M23, soutenu par le Rwanda, s'est notamment emparé des grandes villes de Goma et Bukavu depuis le début de l'année. À cette heure, pas de commentaires du côté des autorités congolaises. Pour rappel, Kinshasa a toujours refusé de dialoguer avec le groupe armé. Kigali, de son côté, continue de se défendre devant ses accusations de soutien au M23 de la part de la communauté internationale. Pour argumenter auprès des diplomates européens, le ministre rwandais des Affaires étrangères a commencé à Bruxelles une visite de travail qui s'étendra jusqu'à mercredi, Lucie Mouillot.
Deux rendez-vous principaux ont marqué jusqu'à présent la visite à Bruxelles du ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndungirehe. Le premier avec la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, qui déclare avoir réaffirmé que le M23 et le Rwanda doivent respecter l'intégrité territoriale de la RDC, cesser leurs avancées et se retirer des territoires occupés. Le second entretien s'est déroulé avec le commissaire de l'UE aux partenariats internationaux, Joseph Sikela. Le diplomate bruxellois appelle toutes les parties au dialogue politique avec l'ensemble des acteurs. Des rencontres au cours desquelles le ministre rwandais a réitéré les préoccupations sécuritaires de Kigali, longtemps ignorées ou écartées selon lui, l'interprétation erronée et biaisée de la crise, ainsi que les mesures unilatérales contre le Rwanda ne conduiront pas à une solution, affirme-t-il. Après de premières annonces, la question de fortes sanctions européennes reste en suspens depuis fin février et un veto déposé par le Luxembourg pour donner une chance au processus fusionnel de négociations de Luanda et Nairobi. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Beaucoup d'interrogations à propos d'un possible déploiement de forces ougandaises à Djouba. Cette annonce, elle est venue du chef de l'armée ougandaise, Muhoozi Kainerugaba, déclarait avoir envoyé des forces spéciales dans la capitale du Soudan du Sud, officiellement pour la sécuriser. Il faut aussi savoir que le fils du président ougandais, Yoweri Museveni, dit soutenir le président sud-soudanais Salva Kiir, qui est en conflit avec son vice-président Riek Machar. Toute action contre Salva Kiir serait perçue comme une déclaration de guerre par Kampala, a même déclaré le militaire ougandais Christina Okello.
Annoncé sur X par Muhoozi Kainerugaba, le déploiement de troupes ougandaises à Djouba a été confirmé par le porte-parole de l'armée ougandaise. Les forces spéciales arrivées il y a deux jours sont censées stabiliser la capitale sud-soudanaise et protéger les citoyens ougandais et étrangers sur place. Mais mystère sur l'ampleur de cette mission, aucun chiffre n'a été communiqué sur le nombre de troupes ni sur la durée de présence. Et sur le démenti de Djouba, silence du porte-parole de l'armée qui a esquivé la question avant de refuser de préciser si les troupes ougandaises ont été envoyées ailleurs qu'à Djouba. Ce flou alimente les interrogations sur la nature exacte de cette intervention militaire. Alors que les tensions s'intensifient à Djouba, arrestation de ministres proches de Riek Machar, affrontement dans l'état de Haut-Nil, une situation jugée alarmante par l'ONU qui redoute un effondrement de l'accord de paix de 2018 signé après 5 ans de guerre civile et près de 400 000 morts.
Explication de Christina Okello.
Dakar 92 FM.
Le Sénégal et le Maroc vont désormais pouvoir porter assistance aux détenus emprisonnés de part et d'autre. Ces personnes condamnées vont aussi pouvoir être transférées dans leur pays d'origine si elles en font la demande. Deux points inscrits dans une convention qui lie les deux pays. L'Assemblée nationale sénégalaise vient d'adopter à l'unanimité aujourd'hui une loi autorisant le président de la République à ratifier ce texte. Selon Amadou Ba, il devenait urgent d'adopter cette convention signée il y a maintenant 21 ans. Amadou Ba, député du PASTEF, le parti au pouvoir au Sénégal.
C'est une convention qui date de 2004. Hein. Il n'y avait pas autant de Sénégalais vivant au Maroc. On parle quand même de 200 000 personnes vivant au Maroc, dont près de 300 qui sont un peu dans les liens de la détention. Donc il était vraiment urgent qu'on signe, qu'on ratifie cette convention qui permette la protection consulaire, l'assistance donc aux personnes qui sont entre les mains de la justice et surtout le transfert de ceux qui sont condamnés.
Qu'en est-il de Macky Sall ? Son nom a été évoqué à plusieurs reprises. C'était une erreur de penser qu'il pouvait y avoir un lien entre cette loi et...
Oui, son nom a été évoqué à tort parce que ce n'est pas une convention d'extradition. C'est pour vraiment l'assistance et le transfert de personnes détenues. Ce n'est pas une convention d'extradition. Par contre, Madame la ministre a bien souligné qu'il y avait des projets avec le Maroc pour examiner notamment ces questions-là. Donc l'extradition viendra à son heure, mais c'est en discussion avec les autorités marocaines.
Amadou Ba au micro de Léa Lisa Vesteroff, Macky Sall qui vit, pour rappel, au Maroc depuis son départ de la présidence l'an dernier. Les autorités sénégalaises ont assuré qu'il ferait face à la justice. Patrick Motsepe a une autoroute devant lui vers un deuxième mandat de 4 ans à la tête de la CAF. Seul candidat en lice, le Sud-Africain, sera donc réélu demain en tant que président de la Confédération africaine de football lors de son assemblée générale élective qui se tient au Caire. Pourtant, son bilan actuel comme patron de la CAF est plutôt mitigé, d'après le Sénégalais Yoro Mangara, consultant de Radio Foot International.
C'est mi-figue, mi-raison. Parce qu'aujourd'hui, il peut vous dire la CAN camerounaise était une réussite, la CAN ivoirienne était une réussite. Ils ont pu vendre les droits TV un peu partout dans le monde. Il y a une équipe africaine qui fait demi-finale de la Coupe du Monde. On a lancé notre première ligue fermée, remportée par son club également. Donc ça, c'est des acquis pour le football africain. Après, de l'autre côté, toutes ces CAN reportées, les CHAN reportées, ça aussi, ça fait partie du bilan de Motsepe. Donc moi, je dirais, c'est mi-figue, mi-raisin.
Il y a un peu plus d'argent dans les caisses, et en ce qui concerne la Ligue fermée, une édition, et puis c'est tout.
Ça fait partie du bilan sombre de Motsepe, parce qu'on attendait à ce que cette compétition puisse continuer à se dérouler et permettre justement aux clubs africains qui souffrent financièrement de respirer. Malheureusement, après la première édition, il n'y a plus rien. Le CHAN a été reporté. Il n'y a aucun pays qui veut abriter la CAN féminine, etc. Tout ça, ça fait partie des bilans sombres de Patrice Motsepe. Parce que le football, c'est pas que le football masculin, il y a le football féminin aussi.
Yoro Mangara au micro d'Olivier Pron a noté que cette session élective organisée en Égypte servira aspirera aussi à renouveler la moitié du comité exécutif de la CAF, avec l'entrée attendue d'un certain Samuel Eto'o, à ne renouveler aussi les 6 postes africains au conseil de la FIFA, 5 chez les hommes et 1 pour les femmes. Le foot, ça continue dans quelques secondes avec cette soirée Ligue des Champions exceptionnelle sur RFI. 8e de finale retour, Liverpool-Paris Saint-Germain. Il est 20h40 à Paris.